Il y a la faille à droite et puis il y a les rochers là à gauche.
On part sur la zone.
Ouais.
Ok, donc on part d'ici et donc on repère ces deux roches là et on va passer.
À droite des deux roches.
Ouais, entre les. Comme ça là. Ok. L'espèce, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour la reconnaître? Donc la joubarbe toile d'araignée, au cœur de la rosette, il y a des petits poils qui font comme une toile d'araignée. Voilà, fastoche. Alors là, est-ce qu'on en voit beaucoup en fleurs, là, à portée de main?
C'est ça.
Ah d'accord.
Petit machin rond.
Ah oui, donc c'est ça là.
Donc vous avez repéré.
Mais ceux qui ont des poils blancs
et
dedans.
Et celle-là, elle est en fleurs.
Non, 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 les fleurs, c'est les grands trucs qui montent.
Ah bon, c'est pas ça?
C'est pas ça, non.
D'accord, les ok, fleurs, ça, c'est... d'accord. Ah oui, c'est ça, là, ça,
ça
des fleurs.
Ça monte sur des tiges.
Ah, ouais. Pour l'instant, on réfléchit, c'est bien vos questions, hein, mais... Donc, on est d'accord que les feuilles, vous les avez repérées?
Ouais.
Ça, t'es sûr que c'est pas une fleur?
Celle-là, c'est...
Ah c'est bah pas si, une, c'est fleur une fleur qui hein. est en train de sécher.
De sécher, ouais.
Ouais. Et c'est bien parti.
On les compte du coup les fleurs sèches aussi quand même?
Elle n'est pas encore en graine, elle est juste un petit peu sèche. Donc moi je considère qu'on la compte. Après rien ne t'empêche de noter à côté le questionnement pour le chercheur. Okay. D'accord? Donc on met. Qui c'est qui fait le protocole? C'est toi?
Alors.
Les touristes, les visiteurs. C'est pas juste aller faire un sommet. Pendant la période estivale, entre mai et septembre, il y a beaucoup de touristes qui viennent en montagne. Et du coup, le dispositif de l'éco-volontariat scientifique, il est né sur cette question de comment rapprocher la société et la science. Et quoi de mieux de les inviter à faire partie de la co-construction des connaissances. Et les visiteurs, ils sont très curieux. Ils sont prêts à participer à ce type de dispositif. Et du coup, les chercheurs, l'intérêt, c'est d'avoir des données qu'ils ne pourront pas avoir autrement parce qu'ils n'ont pas les moyens ni financiers ni humains pour le faire. Donc il y a un win-win, un gagnant-gagnant côté société et côté recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de refuges qui font partie du dispositif Refuge Sentinel, dans différents paliers d'altitude. Donc, et il y a des capteurs d'humidité, capteurs de pollution, et il y a des stations météo, et il y a des chercheurs qui s'intéressent à la géomorphologie, au permafrost. Et donc, ces refuges deviennent en fait un laboratoire pour tous ces chercheurs. Les refuges sont devant un poste d'observation parce qu'ils sont déjà dans un milieu isolé. Donc ça permet de faire le suivi de la biodiversité, donc des insectes, des plantes, de la fauna en général aussi. Mais aussi ça permet de voir les changements des pratiques de la montagne. C'est-à-dire que depuis le Covid, on s'aperçoit qu'il y a un nouveau public qui vient en montagne, qui vient dans les refuges. Et ça nous permet en fait d'observer ces nouveaux publics, d'observer ces nouvelles pratiques en montagne et de nous adapter.
Si on les trouve, on les écrase en fait.
On cherche des insectes.
Vous êtes prêts?
Donc on lance le chrono et on trouve des familles d'insectes. On va chercher. On va voir tout ce qu'on peut trouver. Chacun son petit coin. Insecte volant, oui.
Vous êtes prêts? T'es prêt? Yes. Allez, top chrono!
Tu as vu quelque chose?
Les familles de criquets. Bon, je me suis pas trop arrêtée de savoir si c'était très criquet ou très sauterelle, mais...
T'as quoi du coup?
Trois. Non, j'ai... Par contre... Oh! J'ai attrapé, enfin j'ai pas attrapé, mais
oula.
Une petite
une mue
de sauterelle ou de, je sais pas.
Est-ce que le fait que la mue s'envole peut être compté comme un oiseau qui vole?
Encore un, encore un.
Je crois que non.
Ou une sauterelle ou un truc, tac.
Alors du coup, pour la petite histoire, les criquets, ils ont des antennes courtes, plus courtes que le corps, alors que les sauterelles, elles ont des antennes beaucoup plus longues. Donc c'est un criquet.
Okay.
Mais pour le protocole,
c'est pareil.
C'est pareil. C'est un
truc qui saute, un orthoptère.
Un orthoptère, tout à fait.
Mais j'ai vu que des orthoptères.
Mais c'est pas grave. C'est un résultat.
Pas ma faute si c'est moche.
Il pleut. Moi, j'ai vu des diptères.
Et le tourisme en général, c'est la consommation, comme c'est la consommation de milieu, la consommation de plein de choses. Effectivement, il y a un impact et à niveau du milieu naturel qui on ne peut pas cacher. Par contre, comme aujourd'hui, le touriste il est assez curieux, je pense qu'il faut passer d'abord par ses curiosités pour comprendre le milieu. Et une fois on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu, pourquoi les glaciers reculent, pourquoi les plantes qui commencent à grimper dans l'altitude, pourquoi il y a moins de biodiversité. Une fois on arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe à niveau de touristes, il aura peut-être une meilleure protection sur les milieux naturels. Donc ces éco-volontariats, c'est de concilier le tourisme, c'est un contrebalancier de le tourisme des masses, c'est-à-dire qu'ici on n'est pas sur une expérience, on ne va pas amener une cinquantaine de personnes dans son refuge, c'est une personne par semaine. Et l'idée, c'est de les sensibiliser au milieu naturel, au milieu isolé, aux montagnes, la protection de la biodiversité, mais aussi et pour voilà, se mettre dans la peau d'un chercheur, comprendre qu'est-ce qui se passe, et pourquoi pas imaginer que demain, ils vont protéger ces milieux ou un autre. Il y a un petit exemple que je peux vous donner. Et l'année dernière, il y avait son éco-volontaire qui est venu depuis Paris, qui avait cette notion, cette envie de connaître ces milieux isolés. Et il a fini son expérience et il m'a envoyé un mail en disant que cette expérience l'avait changé, qu'il allait changer de métier et qu'il allait devenir quelque chose en lien avec la protection de la nature. Donc si on arrive à toucher déjà une personne sur le groupe qui va venir en 2024, c'est déjà gagnant.
Si tu marches partout tout le temps, on va juste écraser les fleurs, quoi. On est venu voir les fleurs, bah au début j'en ai vu et après j'en voyais plus parce que je les avais toutes écrasées à force de passer. Là tu te dis, ah, ils sont malins ces chercheurs.
Ouais, ils font appel à des éco-volontaires.
Oh, vous voulez pas participer?
Ils sont si peines.
Allez à la montagne l'été.
Vous allez faire des mesures, vous verrez, c'est rigolo. Le passage le plus... l'endroit le plus... parcouru de tout le parc, c'est une bande de 1m20 par 30 mètres à côté du refuge. On sait pas pourquoi. Les sismographes mesurent des dizaines de gens qui marchent là, font des allers-retours.
C'est sympathique de voir le protocole scientifique autre que le protocole de chimie où on doit préparer les éprouvettes. Se mettre même de manière assez grossière dans la peau d'un chercheur, ça permet de mieux s'imaginer un possible avenir qui pourrait être le mien, de quoi seraient faites mes journées. Et ça m'a aussi permis de voir que j'aime beaucoup la géographie des montagnes. C'est reposant et même s'il pleut, c'est quelque chose que j'aime bien et ça couvre les paysages d'un petit voile opaque qui apporte aussi un charme. Et c'est pas un désert scientifique, donc je me verrais bien m'installer ici.
Un truc avec des ailes, ça vole.
Un papillon.
C'est un papillon ça? Il a des ailes vachement fines. Celui-là. Je sais pas où le mettre sur ma feuille par exemple. Celui-là.
Ailes visibles? Oui.
Oui. Translucide, non?
Opaque ou translucide?
Bah, tu dirais translucide? Je sais pas où est parti. Là-bas. Non. Bon.
Partons
non.
Sur opaque.
C'est un
papillon. Coloré.
Pas bof, hein. Enfin, beige quoi. C'est un papillon?
Bah, autant ça. Donc, c'est peut-être pas un lépidoptère, autant c'est un papillon de nuit.
Ah!
Aujourd'hui, les gens ils font pas du tout le temps d'observer. En fait, avec ce type de protocole, avec ce type d'outils pédagogiques, et voilà, c'est 10 minutes
et observer ces petites bêtes qui, en fait, on ne fait jamais gaffe, en fait. Et depuis l'année dernière, on a testé avec des enfants et des adultes. Ça a toujours marché parce que au départ, je dis bon, je vois rien. Ah, il y a ça. Ouais. Ah, mais il y a ça. Ah, mais il y a un papillon aussi. Il y a ça.
Même des choses qui sont pas dessus, d'ailleurs.
Ouais. Finalement. Donc c'est.
Qu'on s'est pas classé.
Oui. Qu'on s'est pas classé.
Voilà.
Tout à fait.
Je récupère celui-là.
Personne.
Stylo aussi.
Et on va faire le phéno couleur.
Enfin, pour les phénos. Il faut un temps aussi à la vue de s'adapter aux petits détails, parce que
ouais.
Si on se met à regarder par terre, d'abord c'est immobile.
C'est
ah bah tiens, il y a un...
Du
zut. D'abord c'est immobile,
ouais.
Puis après on voit la fourmi,
attends.
Après on voit les toutes petites puces rouges qui aiment bien se déplacer sur les pierres. Et comme ça notre œil perçoit de plus en plus les petits mouvements.
Les petits mouvements, oui.
Ouais. Comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà d'autres gens qui ont fait les mêmes protocoles au même endroit. Et... Ça se trouve, eux, ils ont eu la chance de voir des fleurs.
Ouais. Pas le soleil, pas les fleurs, pas les insectes, pas les papillons.
Ben voilà. Il y a une case, loser.
C'était Scientifique en herbe des écrins, second épisode. Avec la guide Anne Zanolin, l'ingénieur d'études en charge du tourisme scientifique à l'Université Grenoble-Alpes, Daniel Zambrano, et les éco-volontaires, Julie, Cédric et Cilian. Une réalisation d'Aurélien Frances, production Silence Podcast.